Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour la deuxième émission d'Open Blues. Je suis Alain et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, nous allons écouter Highway 61 Revisited, sorti en 1965 et qui est le sixième album de Bob Dylan. Bob Dylan, de son vrai nom, Robert Allen Zimmerman, a 24 ans quand sort cet album. Sa carrière a commencé en 1959, il avait alors 18 ans. Mais depuis 1962, sa notoriété s'est fortement accrue, puisqu'il représente désormais une nouvelle forme d'expression musicale fondée sur le style folk blues, avec des textes dont on dira très vite qu'il s'agit de protest songs, des chansons contestataires. Mais pour comprendre l'état d'esprit de Dylan au printemps 1965, il faut savoir qu'il rentre d'une tournée passée en Angleterre et qu'il ne s'est pas bien déroulé. En effet, le public, essentiellement ses fans de la première heure, accepte mal le virage pris par Dylan vers la musique électrique. Le public, en fait, ne veut pas que Dylan suive la tendance initiée par les groupes britanniques, des Beatles ou Rolling Stones. Il veut qu'il reste acoustique, fidèle au folk blues. Cette réaction du public déçoit Dylan, qui songe même à arrêter sa carrière. Heureusement, cet album le réconcilie avec lui-même. Au fond de lui, il sait désormais que son talent de créateur original est réel et qu'il existera toujours un public pour chacune de ses productions. Pas besoin donc de céder aux exigences des étiquettes, en réalité collées sur l'artiste, par des journalistes ou des DJ étroits d'esprit. Le titre de cet album, Highway 61, reprend le nom de l'autoroute qui va de la Nouvelle-Orléans à la frontière canadienne, en passant par Duluth, dans le Minnesota, qui est la ville natale de Bob Dylan. Pour Bob Dylan, elle représente en fait le symbole de la liberté, de l'indépendance et une chance de s'échapper de la vie qu'il ne voulait plus vivre à Ebbing, ville où il a passé son enfance. C'est tout à fait le sens du message qu'il veut donner à son album. Pour l'accompagner sur cet album, Dylan a recruté Mike Bloomfield du Paul Butterfield Blues Band qui avait déjà joué avec lui en 1963. On peut aussi noter la présence d'Al Cooper, d'abord invité comme guitariste, puis comme organiste, alors qu'il n'avait que très peu joué de cet instrument auparavant. Cette association explique la sonorité très blues rock qui domine cet album. L'enregistrement s'est déroulé sur 7 sessions entre le 15 juin et le 4 août 1965. Celle du 25 juillet a été très écourtée pour permettre à Dylan de faire un passage qui se révélera très controversé au festival de folk de Newport. Pour finir avec cet album, il a été commencé avec Tom Wilson et il a été repris par un nouveau producteur, Bob Johnson, qui s'occupera de 8 chansons sur 9 que comporte cet album. La première chanson de l'album s'appelle « Like a Rolling Stone ». C'est une des chansons rock les plus connues de Dylan et c'est un des tournants de l'histoire du rock. De plus, c'est la chanson idéale pour découvrir l'univers très particulier de Bob Dylan, dont on connaît finalement assez peu la nature des textes, surtout en France, même pour ses chansons les plus célèbres. Il faut savoir que depuis ses débuts, ses paroles décrivent des situations ou proposent des réflexions surprenantes, surtout pour l'époque. Le magazine Rolling Stone l'a cité comme la plus grande chanson de tous les temps, affirmant qu'aucune autre chanson n'a jamais défié et transformé les codes commerciaux et les conventions artistiques de son époque aussi profondément. En effet, contrairement aux hits de cette époque, les paroles de Like Rolling Stone ne parlent pas d'amour, mais montrent plutôt le ressentiment et l'ardent désir de revanche qui existe chez Dylan. Les paroles expriment le sourire méprisant de Dylan envers une femme d'origine aisée et protégée, Miss Lonely, Mademoiselle toute seule, si vous voulez, qui se trouve tombée en disgrâce et obligée de se débrouiller, puis de lutter dans un monde hostile et inconnu pour elle. De plus, par sa longueur, 6 minutes 12, elle provoqua une petite révolution en devenant malgré tout un hit. Ainsi, radio et DJ durent la passer sur les antennes, ou dans les dancing. Pour l'époque, c'est une nouvelle façon de chanter le réalisme de la vie qui est assez novatrice pour être présentée à un public de jeunes grâce à une orchestration folk-rock, voire presque blues-rock. Cette sonorité, d'ailleurs, est principalement due à la présence de Mike Bloomfield à la guitare et Al Cooper à l'orgue, assemblage imprévu à l'origine.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel?
steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown?
C'était donc Like a Rolling Stone sur Oxy Web Radio. Autre exemple révélateur de l'univers de Dylan, voici Tombstone Blues. D'influence très blues, mais jouée avec une rythmique très rock, cette chanson propose des paroles caractéristiques du style surréaliste du Dylan de cette période. L'ensemble comprend 6 tableaux qui évoquent des figures politiques et fait allusion à la Bible, entrecoupé du refrain qui donne une idée de l'ambiance générale de la chanson. Je vous la cite. « Maman est à l'usine, elle n'a pas de chaussures. Papa est dans la rue, il cherche de la nourriture. Je suis dans la cuisine avec le blues d'une pierre tombale. » Je pense que le ton est donné dans ce refrain. Deux lignes de la chanson ont fortement marqué les esprits à l'époque. Le premier dit « La mort réservée à tous ceux qui vont pleurnicher ou pleureront. » Et ensuite, le soleil n'est pas jeune, c'est du poulet. Toute allusion à une phrase en français tout à fait comparable ne serait peut-être pas tout à fait le fruit du hasard. Mais c'est en fait une critique du monde politique, de Lyndon Johnson notamment, suppléant de John Fitzgerald Kennedy, le président assassiné en 1963, qui donne l'impression, donc je parle toujours de Lyndon Johnson, n'écoute pas le pays et lui raconte n'importe quoi sur le Vietnam ou l'économie. Donc pour tout dire, les paroles correspondent au style surréaliste qui émerge à l'époque, l'épique vise la société et l'autorité, la chanson contient plusieurs allusions directes et indirectes aux personnages bibliques, dont Jézabel, l'épouse du roi d'Israël, qui fut connue pour avoir persécuté le peuple juif. Dans la chanson, on trouve aussi des références historiques, comme la chanteuse de blues Ma Rainey ou Beethoven. En résumé, Bob Dylan confirme ici son rôle de chanteur contestataire avec une ambiance générale très blues et des paroles contestataires ou process-song destinées à son jeune public principalement. Mais en fait, beaucoup d'intellectuels récupéreront ces messages de Bob Dylan et le considéreront finalement comme un des leurs. Je vous propose d'écouter Tombstone Blues.
The sweet, pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Belle Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen where the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in.
medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. King of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Unwrapped the bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the national bank and a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right.
C'était Tombstone Blues sur Oxy Web Radio. La chanson suivante s'appelle It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry, qu'on peut traduire par Il en faut beaucoup pour rire, il suffit d'un train pour pleurer. Dans cette chanson, le narrateur fait, a priori clandestinement, un voyage en train qui semble à la fois l'émerveiller, comme le montre le second couplet, la lune n'est-elle pas belle, le soleil n'est-il pas beau, et le rendre triste à la fois, comme le suggère le titre de la chanson. La version de la chanson sur cet album est un blues électro-acoustique, une des trois chansons de blues de l'album, les autres étant From Week 6 et Just Like Tom Tom Blues. Il se compose de lignes tirées de chansons de blues traditionnelles combinées avec les propres paroles de Dylan. C'est ce que fera très fréquemment Dylan tout au long de sa carrière. Musicalement, la chanson a un tempo paresseux et comporte même un léger décalage du batteur de session Bobby Gregg qui renforce cette paresse. Les instruments utilisés sont un piano bass string, ce qui est assez peu fréquent, et plus classique, une basse, une guitare et l'harmonica chère à Dylan. Leur emploi est néanmoins inhabituel, je vous laisserai juger tout à l'heure. On ressent bien néanmoins le bruit du train qui avance lourdement sur la voie. Pour information, la version retenue est plus optimiste que les premières versions réalisées. Plusieurs anecdotes intéressantes concernent cette chanson. Tout d'abord, Dylan a joué la chanson en direct pour la première fois dans le cadre du concert d'août 1971, organisé pour le Bangladesh par son grand ami George Harrison, l'ancien Beatles. Il y avait bien eu une représentation initiale de cette chanson, mais qui s'était pas très bien déroulée, lors du fameux festival folk de Newport en juillet 1965, donc au milieu des sessions d'enregistrement de l'album, mais qu'avait valu à Dylan d'être chassé de scène, qui avait en plus soulevé énormément de critiques, qui n'avaient vraiment pas accepté le rock électrique diffusé par l'artiste. Et cette anecdote est importante parce qu'elle évoque encore une fois le moment difficile que passe Dylan à ce moment-là. Les fans historiques n'acceptent pas son virage électrique, c'est clair. Il est même chassé de scène par le public et il devra revenir interpréter des chansons acoustiques pour tenter de le calmer, voire de le rassurer. Voici donc « It takes a lot to love, it takes a train to cry ».
Train, babe, can't buy a thrill. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill.
Love.
Quartet et donc It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry de Bob Dylan pour OxyWeb Radio. La quatrième chanson s'appelle Ballad of a Thin Man. C'est une chanson sombre et menaçante, typique de l'univers créé par Dylan. Elle raconte les péripéties du très conformiste Mr. Jones, qui observe un cirque rocambolesque et burlesque qu'il ne comprend pas. L'identité de ce Mr. Jones a longtemps fait l'objet de débats et de questions. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont circulé, plus ou moins fantaisistes, et je retiendrai trois qui me paraissent plus vraisemblables. La première pourrait être une référence à la jeunesse de Dylan, qui ressemblait à l'archétype de ce qui se passe dans toute famille américaine de l'époque, des années 50, qui se révèle finalement très matérialiste. De plus, ce nom de Mr. Jones est très souvent employé dans la culture anglo-saxonne pour exprimer justement ce genre d'idée. Et en plus, Dylan voulait s'opposer complètement à ce type de vie, de style de vie, et le mouvement de contre-culture qu'il a animé durant les années 60 l'aidait considérablement. L'autre hypothèse crédible, c'est que dans cette chanson, Dylan règle ses comptes avec des critiques acerbes qui lui ont été notamment adressées par le Melody Maker, qui visiblement ne comprenait rien à son œuvre. Et ça, cette hypothèse, je crois volontiers, dans la mesure où il y a eu l'événement du Festival de Newport, où Dylan a essuyé quand même beaucoup de critiques et a gardé très longtemps une profonde rancœur envers ce qui a été raconté à cette époque. Enfin, le troisième point, qui est aussi très possible, c'est un peu le comportement de la société américaine envers l'homosexualité. Tout au long de la chanson, il y a plusieurs allusions, notamment envers des symboles phalliques, mais également la pratique, on va dire, comme la fellation, qui donne à penser qu'effectivement, Dylan essaye de se rebeller contre l'intolérance de la société vis-à-vis de l'homosexualité. Bref, il est difficile au total de tirer cela au clair, vu l'ambiguïté entretenue par Dylan lui-même. Le rythme particulier de cette chanson, en plus, et le chant de Dylan, crée une ambiance qui font passer à de la moquerie et à un donneur de leçons. Et ça, par contre, on le ressent très bien à l'intonation. Au bilan, je dirais qu'il utilise de toute façon l'absurde pour véhiculer des idées fortes et revanchardes envers la société, les critiques, les pop stars déchus, etc. En tout cas, à vous de vous en faire une idée.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you,
facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organization. With the professors, and they've all liked your looks. With great lawyers, you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Voilà, c'était Ballad of the Thin Man sur Roxy Web Radio. Semblable à d'autres chansons de Dylan de cette période, Queen Jane Approximately, qui est la chanson suivante, est plus douce et montre envers le sujet abordé une certaine compassion. Le sujet traité dans la chanson vit dans un monde irréel, empli d'attitudes et de personnes superficielles et de convenances sans signification. En fait, le narrateur invite Queen Jane à venir le voir si, quand elle voudra rompre avec ses distractions superficielles et s'engager dans une expérience honnête et authentique, ou quand elle aura besoin de quelqu'un qui finisse par prendre les choses en main. La chanson est structurée en 5 couplets, dans lesquels les deux premiers traitent des relations de Queen Jane avec la famille, les deux autres sa relation avec ses courtisans, et le dernier aborde des relations avec des bandits. Cette structure trace essentiellement le chemin qui va des proches à la sortie de sa situation actuelle en préparant les dernières lignes du 5e vers. La chanson intègre plusieurs attitudes à l'égard du sujet, notamment la condescendance, l'autosatisfaction, le mépris, la compassion et le ricanement. Mais comme avait beaucoup de paroles chez Dylan, l'ambiguïté et les significations alternatives abondent. Queen Jane Approximately peut également être entendue en tant que chanteur réfléchissant au vide de sa propre vie, se disant d'aller voir la reine Jane de la dépendance, soit en fait de l'héroïne. Alors, Bob Dylan veut-il parler de l'héroïne ou de John Baez ou de Jane Seymour, voire Jane Grey, qui étaient ses amis à l'époque? On ne le saura sûrement jamais, car, mêlez le tout, Bob Dylan a parfois dit qu'en fait il s'agissait d'un homme qui était évoqué. La musique est enregistrée d'une façon cohérente avec le reste de l'album, les guitares électriques jouent avec l'orgue et le piano bastringue. Très présent, les musiciens sont Bob Dylan, bien sûr, Mike Bloomfield aux guitares électriques et Al Kooper avec Paul Griffith au clavier. Dans un sondage réalisé en 2005 auprès d'artistes américains, Queen Jane Approximately figurait au nombre des chansons de Bob Dylan qui comptaient le plus pour eux. Elle atteignait la 70e place parmi les innombrables chansons de Bob Dylan.
Back all your invitations, and your father to your sister, he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of the flower ladies want back what they have lent you, and the smell of their roses does not remain, you turn your other cheek to,
shade.
C'était Queen Jane, Approximately, par Bob Dylan, sur Roxy Web Radio. La chanson suivante est Highway 61 Revisited, qui reprend le titre de l'album. C'est une chanson hyper connue par les gens de ma génération à cause de ça. Cette version de Johnny Winter, c'est la reprise à plus illustre qu'il l'a produit d'abord sur un album studio, Winter the Second, et surtout sur un album live, Captured Live. À l'occasion de l'émission, j'ai une petite pensée pour les deux formidables joueurs de slide que je connais et qui viennent de sortir un superbe album. Donc je les embrasse et bien sûr je veux parler de Guital et Kali. Donc cette chanson, Highway 61 Revisited, a 5 strophes. Et dans chaque strophe, quelqu'un décrit un problème peu commun qui est finalement résolu sur cette autoroute 61. Donc on y retrouve pêle-mêle l'histoire de Dieu qui demande à Abraham de tuer son fils et qui va se rendre sur l'autoroute où finalement l'enfant sera sauvé. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Abraham est le prénom du père de Dylan. Dans la strophe 2, on trouve les déboires d'un ami de Dylan qui ne peut pas bénéficier d'une aide sociale. Dans la troisième, on retrouve un pickpocket qui doit se débarrasser de choses qu'il a vraisemblablement volées et qui sont finalement totalement absurdes, comme 50 lacets blancs ou 1000 téléphones qui ne sonnent pas. Et là encore, il se rend sur l'Highway 61 où le roi Louis va le sauver. Strophe 4 est au sujet de la cinquième fille qui, la 12e nuit, a dit au premier père que son teint est trop pâle. Et le père étant d'accord, il décide d'en parler à la deuxième mère, qui elle se trouve en fait avec le septième fils. Comme vous voyez, c'est d'une clarté absolue. Enfin, la cinquième et dernière strophe, c'est l'histoire d'un joueur qui s'ennuie, aussi il essaie de créer la prochaine guerre mondiale, il faut s'occuper, hein. Et son conseiller lui dit, éteins quelques rayons du soleil et va les amener sur l'Highway 61. Et là encore, grande chance, il se passe rien. Malgré l'impression donnée par ces strophes, et j'en conviens, il y en a quand même une impression d'absurde, il faut savoir qu'il y a derrière tout ça une vision bassement politique dans l'esprit de Dylan. Un peu comme tous ces politiques qui veulent régler quadrature du cercle à tout bout de champ. Sinon, pour revenir sur l'aspect médical, entre chaque strophe, on entend Bob Dylan faire siffler un soufflet à glissière. En fait, Dylan aurait eu cette idée pour remplacer le son de l'harmonica initialement prévu. Ce son simule la résolution du problème énoncé dans la strophe et on peut considérer ce morceau comme un mélange de boogie et de blues pour essayer de donner une certaine cohérence à l'ensemble.
To Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh,
finger said to Louis the King. I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
C'était Highway 61 Revisited sur Roxy Web Radio. La dernière chanson que je vous propose d'écouter ce soir s'appelle Just Like Tom Thumb Blues, qu'on pourrait traduire par le blues juste comme l'histoire du petit poussé. Cette chanson est considérée comme un des chefs-d'œuvre du Dylan des années 60 et se présente comme un coup de maître assez comique. Cette chanson suit le thème de la fatigue et du dégoût de la route. Le chanteur se retrouve en fait dans la ville de Ciudad Juárez, au Mexique, à Pâques, dans une ambiance remplie de nausées et de désespoir, entouré de prostituées et de saintes. Une fois là, il rencontre des femmes étranges, ressemblant à Sainte Annie et à la douce Melinda, ainsi que les autorités corrompues de la ville. Devant cette situation lugubre et glauque, il boit et se drogue pour oublier son impuissance à changer tout ça. Le titre met en place en fait un décor de cauchemar, tandis que le chanteur est entraîné toujours plus loin dans une atmosphère sombre et négative, harcelé par l'alcool, la maladie, la drogue, le jeu, le remords et les mauvais souvenirs. C'est une expression moderne du blues, avec des images fortes ou absurdes, comme saura toujours le faire Dylan. Ici donc, le décor et le contexte sont associés pour dresser un magnifique tableau de la conscience, terne et sale, sans pour autant permettre de discerner clairement le propos réel de la chanson. Mais dans l'étonnante strophe finale, le chanteur en a assez, il trouve le moyen de remonter à la surface, laisse tout derrière lui et revient finalement à New York où la situation devrait être meilleure. Comme dans beaucoup de chansons de Dylan et notamment dans cet album, il y a plusieurs références littéraires, notamment Malcolm Lowry qui est un auteur américain, Edgar Allan Poe, lui qui est plus connu, et aussi le poète français Arthur Rimbaud. Parmi les particularités de cette chanson, il faut signaler qu'il n'y a pas de refrain et que pour Bob Dylan, c'est une utilisation novatrice des claviers. Enfin, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est d'écouter la version de Neil Young qu'il a interprétée lors du concert des 30 ans de carrière de Bob Dylan, qui reste pour moi une des meilleures versions de cette chanson. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter Dylan.
Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
They got some hungry women there, and they really make a mess out of you. Now, if you see St. Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. She takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast. Blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Soon hit the hardest stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had.
C'était donc Just Like Tom Tom's Blues de Bob Dylan pour OxyWeb Radio. Pour conclure, Highway 61 Revisited demeure l'un des chefs-d'œuvre de Bob Dylan, qui estime lui-même d'être allé le plus loin possible dans l'expression de son art Sa démarche de visionnaire, la puissance poétique des mots, la radicalité de la musique en font une œuvre majeure, expression d'un désarroi ironique devant l'absurdité du monde contemporain. Je trouve que ça résume assez bien l'œuvre de Bob Dylan et spécialement cet album. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel album produit par le groupe britannique Cream qui annonce ce qui allait devenir par la suite le blues rock et bien sûr le hard rock. En attendant, comme il est d'usage, roulez blues.